bienvenue sur Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 30 novembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le variant Omicron détecté pour la première fois en France, à La Réunion. Un homme de 53 ans, de retour d'Afrique australe. Dès le début de ce journal, vous entendrez le chercheur qui a fait les analyses en 24 heures seulement. On voit ça après les autres titres, Anaïs.
Débat décisif ce soir pour les candidats, les Républicains à la présidentielle pour convaincre les indécis avant le vote des adhérents. Demain, débat à suivre en direct sur notre antenne. La Barbade quitte la couronne britannique. Cette perle des Caraïbes vient de se proclamer république. Et puis le PSG exulte, premier ballon d'or de son histoire grâce à sa recrue star Lionel Messi, sacré pour la 7e fois.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous, Yaël.
Si la droite LR était un magasin de porcelaine, il serait l'éléphant qui veut tout casser pour recomposer au service d'Emmanuel Macron. Entre un Zemmour quasi-candidat et des Républicains qui débattent pour la dernière fois, le conseiller à l'Élysée et député de la majorité Thierry Soler est notre invité.
Et on se retrouvera tout à l'heure, Yaël, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale. Delta Omicron, notre invité, le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du conseil scientifique. Vos questions, je les imagine nombreuses. 01 45 24 7000, le standard vous attend.
France Inter. Après l'Allemagne, la Suisse ou l'Espagne, le variant Omicron débarque donc sur le sol français. On vient de l'apprendre, cette confirmation nous vient de La Réunion. Après le séquençage de 6 tests en urgence, Patrick Mavinghi, directeur de recherche au CNRS, annonce un résultat positif au micro de Réunion la Première.
C'est un homme, oui, qui est né en 68, qui, du point de vue de déplacement professionnel, a voyagé en tout cas au moins deux pays, Mozambique et avec un escale en Afrique du Sud. L'ARS a réagi, placé en isolement, mais aussi son entourage. Alors, il était symptomatique, certes, mais son état de santé n'est pas dans les cas de sévérité. Oh, ben, symptômes classiques, hein, vous avez la toux, vous avez des douleurs musculaires, beaucoup de fatigue, effectivement, de la fièvre, et qui accompagne ce patient qui est chez lui.
Patrick Mavinghi, chercheur à l'unité de recherche processus infectieux à La Réunion, devrait en savoir plus dans les prochaines heures et les précisions de l'agence régionale de santé et de la préfecture qui doivent communiquer. Premier cas de ce variant qu'on dit très hautement transmissible qui arrive en pleine 5e vague de Covid. Réunion au sommet en Allemagne aujourd'hui pour décider d'un éventuel durcissement des restrictions. Rien de tel en revanche en Russie où le pays est pourtant l'un des plus touchés au monde. Le pouvoir hésite à prendre des mesures coercitives de peur de provoquer la révolte. À Moscou, Sylvain Tronchet.
C'est un paradoxe dans un pays où quasiment plus personne n'ose manifester, où l'on risque d'aller en prison pour avoir brandi une pancarte. Depuis 3 semaines, les rassemblements anti-QR code, la version russe du pass sanitaire, se multiplient. À Kazan, à 800 km à l'ouest de Moscou, les autorités locales ont imposé le QR code dans les transports. Alors, il y a 5 jours, quelques centaines de personnes ont bravé la police.
Les rassemblements sont réglementés par la loi fédérale 54. Et vous n'avez pas déposé de demande.
Comme si quelqu'un allait nous autoriser à manifester.
À bas le QR code, criaient les manifestants, tenant face aux caméras, sur les réseaux sociaux, des propos dont la liberté de ton est peu courante en Russie actuellement.
Nous ne voulons pas être des numéros, nous voulons être des personnes, avoir notre propre avis, et qu'on nous laisse entrer dans les transports sans QR code.
Certains politologues en Russie expliquent que le contrat tacite entre le gouvernement et la population, l'autorité d'un côté, la possibilité de tracer son chemin, de cumuler plusieurs emplois, pas toujours déclarés, de l'autre, ce contrat a été rompu. Et pour de nombreux Russes, cela est beaucoup plus grave que réduire au silence les opposants. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Il est 7h04, Anaïs, quand les pré-campagnes en France touchent à leur fin.
Et voici que se décante en cette fin novembre le paysage politique à 5 mois de l'échéance présidentielle. Dernier meeting chez les candidats LR qui s'affrontent ce soir pour leur ultime débat sur France 2 et France Inter. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse vont tenter de séduire les 140 000 adhérents. Le vote qui débute demain est plus que jamais ouvert, Anne Souhaitemont.
Un moment très important. Quelle que soit l'écurie, on prépare soigneusement le débat de ce soir. La dernière impression comptera, veut croire un soutien de Xavier Bertrand, d'autant que les indécis sont encore nombreux. Un débat décisif, car après un mois et demi de campagne et 3 débats télé, aucun des 5 n'a tué le match. Alors à quelques heures de l'ouverture du vote, demain 8h, personne n'ose le moindre pronostic, tout est possible. Des candidats qui seront ce soir interrogés sur des sujets jusque-là relégués au second plan dans cette campagne, pouvoir d'achat, écologie, éducation, mais aussi sur l'immigration et la sécurité, les deux sujets prioritaires et de loin pour les sympathisants de droite. Selon un sondage Soprasteria réalisé à l'occasion du débat de ce soir, 90% des possibles électeurs de droite souhaitent une politique d'immigration zéro. La performance des débatteurs aura-t-elle un impact sur le vote? Certains rappellent qu'en 2011, ceux qui avaient crevé l'écran lors de la primaire socialiste, Arnaud Montebourg et Manuel Valls, avaient respectivement terminé 3e et 5e sans se qualifier pour le second tour.
Et débat à suivre sur France Inter, émission spéciale à partir de 20h avec Jérôme Cadet et les journalistes du service politique d'Inter. Dernier meeting des candidats LR, premier meeting hier de celui qui n'est pas encore déclaré mais dont le nom était scandé par 2000 personnes malgré son absence. Macron président, c'est ce qu'on a entendu à la Mutualité à Paris hier soir. La Macronie s'est donc réunie sous une seule bannière, Ensemble citoyens, effort d'unité Maxence Lambrecq, pour montrer au chef que tout est prêt.
Il ne manque plus qu'Emmanuel Macron.
C'est mieux d'être tous prêts le moment venu plutôt que d'improviser en désordre.
Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a mené des dizaines de réunions pour aboutir enfin à cette photo.
Merci aux marcheurs.
Leur patron, Stanislas
Guérini. Merci aux militants du Modem de Agir, de Horizon, de Territoire de Progrès, de En Commun.
Or les Français ont du mal avec les chapelles.
François Bayrou.
Ils n'ont pas le temps et très souvent ils n'ont pas envie de scruter nos différences et de démêler nos nuances. Ils veulent que nous nous entendions.
Le plus dur est à venir pour des candidatures communes aux législatives, car chacun voudra son groupe le plus fort possible.
La naissance d'Ensemble citoyens, c'est résolument un pas dans la bonne direction.
La ministre Barbara Pompili.
Mais ce n'est qu'un premier pas, il en faudra d'autres pour assurer la parité dans la gouvernance de ce mouvement.
Seul moment où toute la salle se lève, puisqu'au sommet, il n'y a que messieurs Bayrou, Ferrand, Castex et Philippe. Le maire du Havre gagne la bataille de l'applaudimètre en jouant le jeu.
Notre objectif, c'est la réélection d'Emmanuel Macron, c'est de servir la France et c'est d'être meilleur que nous ne sommes nous-mêmes au service de la France.
Pour le programme commun, il faudra encore patienter. Chacun va essayer de peser, d'influencer, si c'est possible, le futur candidat.
Reportage de Maxence Lambrecq. Autre futur candidat, et là il n'est question que de quelques heures, le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour annoncera aujourd'hui qu'il se lance dans la bataille présidentielle. Plan média prévu, une vidéo sur les réseaux sociaux aujourd'hui à midi, avant le 20h de TF1 ce soir. Le ministre des Outre-mer arrivé en Martinique pour une visite de 24 heures. Sébastien Lecornu est arrivé en Martinique après un dialogue de sourds en Guadeloupe avec l'intersyndicale. Nous y serons dans le journal de 7h30.
Il est 7h08 après 4 siècles d'histoire commune. La Barbade, Anaïs, s'affranchit de la couronne britannique.
L'étendard de la reine d'Angleterre a été descendu et le drapeau présidentiel hissé. Cette petite île des Caraïbes, moins de 300 000 habitants, ne reconnaît plus la reine Elisabeth comme chef d'État. Elle vient de proclamer la République. Valérie Crobat.
La date du 30 novembre est symbolique pour les Barbadiens. C'est le jour de la proclamation de l'indépendance de l'île, célébrée en 1966. 55 ans plus tard, Sandra Mason est devenue à minuit la première présidente de la République de la Barbade, après en avoir été la gouverneure générale, autrement dit la représentante d'Elisabeth II. Dès demain, 1er décembre, certaines institutions seront rebaptisées. Les forces de l'ordre perdront ainsi leur appellation officielle de police royale de la Barbade. La perle des Petites Antilles s'affranchit non seulement de la couronne, mais aussi de son lourd passé esclavagiste. La Barbade suit les traces des îles Fidji et de Maurice, devenues elles aussi des républiques, après d'autres nations caribéennes comme la Guyane, Trinité et Tobago ou la Dominique dans les années 70. L'île de la Jamaïque pourrait être la prochaine sur la liste.
Et la Barbade reste dans le Commonwealth. Le prince Charles a assisté aux cérémonies officielles. LU5, Marie pilota des avions, s'illustra dans la résistance. Elle conduisait de luxueuses limousines et attirait le tout Paris dans son cabaret. Joséphine Baker, panthéonisée aujourd'hui, première femme noire à entrer parmi les grands hommes de la patrie. Deux collèges en France portent son nom, au Mans et à Saint-Ouen, banlieue parisienne, où Sonia Princet a rencontré des collégiens fiers et motivés. Un club Panthéon a même été monté.
J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Ils connaissent les paroles par cœur. Ces élèves de la chorale du collège répètent depuis septembre. Et Lydia, Assia, Rémi connaissent tout de la vie de Joséphine Baker.
Je sais qu'elle a été très très pauvre et qu'elle faisait de la danse de rue pour gagner un peu d'argent pour son foyer.
J'ai un peu appris à la connaître avec les cours de musique et de français. On a appris qu'elle était militante et résistante.
Pour nous, déjà, c'est un honneur de porter son nom au collège. Et c'est un grand plaisir pour nous qu'elle soit au Panthéon.
Et au Panthéon, une trentaine d'élèves aura le privilège d'assister à la cérémonie, parmi eux Kylian.
On est les élèves du collège Joséphine Baker et on va voir la cérémonie pour Joséphine Baker. Je trouve ça quand même sympa de pouvoir y aller parce qu'on est jeune et ça ne pourra pas se reproduire pour nous. Donc c'est quand même une grande chance qu'on a.
Les professeurs les préparent à ce moment unique, comme le raconte Céline Colombelle.
Déjà, il y a beaucoup de questions sur comment on va s'habiller. si on nous pose des questions, qu'est-ce qu'on va dire? Donc ils sont assez impressionnés. Puis comme ils connaissent le lieu, comme ils ont été le visiter, ils savent que c'est solennel.
Au collège aussi, la journée sera très spéciale, avec présentation d'une exposition et de chants. Un collège qui n'aura jamais aussi bien porté son nom.
Mon cœur est ravi.
Et France Inter vous fait vivre en direct les cérémonies de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon à partir de 17h, directes et invités. Et puis le Zoom après ce journal. Le Nord et le Pas-de-Calais n'en ont pas fini avec les crues. Vigilance orange, inondation pour les deux départements maintenus jusqu'à 16h aujourd'hui. Pierre Ménès visé par une enquête pour agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés lors du match PSG Nantes le 20 novembre dernier. Lui devient indétrônable, 7e ballon d'or pour Lionel Messi, plus fort que Lewandowski. Hier soir au bar-restaurant argentin Volvaire à Paris, le patron n'aurait raté pour rien la cérémonie d'hier soir. Romain Bercher y était.
Pas question pour Carlos de rater le moment fatidique. Il l'a même filmé avec son téléphone portable.
Lionel Messi.
Incroyable. El mejor, c'est les meilleurs.
Les yeux rougis par ce 7e ballon d'or, le patron du bar assis au milieu d'une dizaine de maillots de la sélection nationale argentine, dont celui de Lionel Messi, salue la performance de son idole.
Comment on peut les donner à quelqu'un d'autre, même si Robert Lewandowski il a fait une très bonne année, mais c'est qu'un buteur. Messi, c'est un extraterrestre. On ne sait pas d'où il vient, mais c'est énorme.
Autour de Carlos, ses amis partagent son avis, même les plus sceptiques, comme ça dit.
Ouais, bravo, hein. T'avais raison. C'est hein. Franchement, c'est le meilleur.
C'est ça ce qu'il faut dire. On l'a ici à Paris. Là, la Gioconde, on l'ouvre et là, on a Messi à Paris. C'est ça.
Bah, c'est une légende. C'est une légende.
On va dire un jour à tes enfants, tu sais, Lionel Messi, il a joué au Paris Saint-Germain. C'est quand même incroyable, ça. C'est incroyable.
Pourvu que ça dure, lancent les supporters. En club ou en sélection, nage, voit le roi Messi briller encore longtemps.
C'est son âme à Messi qui a fait la différence. Ouais, Messi, il n'a pas fini encore. Je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot avec l'Argentine.
Argentina primero.
L'Argentine d'abord et cet objectif. Ils rêvent désormais tous d'un grand Lionel Messi pour la prochaine Coupe du Monde. Ce sera au Qatar.
Et le ballon d'or féminin a été décerné à la capitaine du FC Barcelone, Alexia Putellas.
Anaïs Feuga, merci. Le zoom, c'est dans 3 minutes sur Joséphine Baker, donc militante de la fraternité.